Et je vous invite à entendre le passage de l'Évangile de Marc au chapitre 7, au verset 24 et suivant. C'est l'histoire de la Syrophénicienne et de la guérison du sourd muet. Parti de là, Jésus se rendit dans les territoires de Tyr. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle lui répondit « C'est vrai, Seigneur. » Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés. Ils disaient, il a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe sur notre sentier. Amen. Là, je vous invite à prendre 251 en entier. Voilà, nous avons fini ce cantique de 151 sur l'idée d'espérance. Et je crois que les deux textes que nous avons lus, les deux petites péricopes que nous avons lus de l'Évangile de Marc, vont tout à fait dans ce sens de l'espérance. Évidemment, de même que l'Apocalypse, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, en commençant ce culte. Lorsqu'on lit ces deux textes de l'Évangile de Marc, la guérison de la fille syrophénicienne et la guérison du sourd muet qui se trouve quelque part en Décapole, eh bien, on est un petit peu surpris parce que je ne sais pas si les figures de Jésus qui sont dans ces deux textes correspondent tout à fait à ceux dont on a l'habitude. En général, on voit Jésus comme un personnage doux, la douceur évangélique, etc. Et puis on voit Jésus assez conforme aux usages tels qu'on les imagine. Mais de là à voir Jésus qui lance à la figure d'une femme qui est humiliée une injure aussi grave que de la traiter de chienne, il y a quand même un fossé. Là, il y a quelque chose d'assez épouvantable qui doit se passer pour cette femme, de prendre en public cette injure. Parce que, bon, si nous, on a l'habitude, comme je disais tout à l'heure, en catéchumène, des bons toutous qui sont gentils, etc., bon, voilà. Mais pour le monde sémite, le chien est un animal qui est méprisé. Et ça depuis l'Antiquité. Hein. Et donc, l'injure est une injure épouvantable. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ensuite, dans l'autre péricope, voir Jésus qui met les doigts dans les oreilles de quelqu'un, on n'est pas très habitué, on le voit imposer les mains, on voit des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande à Jésus, viens lui imposer la main. Et Jésus de cracher par terre, faire de la boue, enfin, puis mettre les doigts dans les oreilles. Voilà. Il y a quelques temps de cela, quelqu'un au marché m'a demandé une imposition des mains, ce que j'ai fait. Je veux dire, dans ce temple, là, j'ai fait installer ici, il s'est mis à genoux, j'ai imposé les mains, mais je n'ai pas mis les doigts dans les oreilles. Je veux dire, parce qu'il aurait été surpris, le gars. Je veux dire, évidemment. Mais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette injure? Pourquoi est-ce qu'il y a ces gestes qui sont là, qui nous sortent un peu de l'habitude que l'on a dans nos représentations de Jésus, qui sont un petit peu lénifiantes et bisounours, quoi. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Alors voilà, nous voilà d'abord avec un Jésus qui est en pays païen. Là, il est en plein dans le Liban actuel, qui est à l'époque un pays vraiment païen. Il a pris du recul, peut-être, une certaine discrétion, peut-être une fuite face à un danger, on ne sait pas très bien. Les commentaires bibliques là-dessus ne disent pas grand-chose. Est-ce qu'il a un projet précis? C'est pas dit non plus. Voilà. Mais ce qu'on constate, c'est, et ça c'est intéressant peut-être au niveau historique, mais sa renommée dépasse les frontières d'Israël, puisque cette femme, qui est syrophénicienne, en entend parler. Hein. Et c'est parce qu'elle l'a entendu parler d'une certaine manière qu'elle va agir, finalement. Elle va entrer dans une démarche qui est tout à fait exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'il est là, on ne sait pas très bien s'il est à table, les commentaires disent « bon, mais il y a cette histoire du pain, etc., avec les miettes qui tombent de la table, alors peut-être est-il en train de manger avec des amis, etc., mais c'est pas sûr, c'est pas dit dans le texte de ce côté-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il est avec ses disciples et dans une maison, et que cette femme survient comme ça, de manière inattendue, elle n'a pas de nom, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait seulement qu'une seule chose, c'est qu'elle a en elle une souffrance énorme, une souffrance parce que sa fille a, comme le dit le texte, un démon, c'est-à-dire qu'elle est malade, puisqu'à l'époque, on attribuait les maladies à des démons ou à des malédictions. Mais alors cette femme, elle surgit comme ça de manière tout à fait inattendue. Cela arrive souvent que dans nos vies quotidiennes, les uns et les autres, ça vous est peut-être arrivé, on soit surpris par une parole, par une rencontre, par un geste qui nous remet en cause, finalement, qui nous interpelle, comme on dit aujourd'hui. Souvent, on peut prendre une autre direction que celle qu'on avait prise au départ à la suite d'une telle irruption dans notre vie. C'est un petit peu comme quelque chose de l'ordre de l'éternité, hein, de l'imprévisible, venir nous visiter dans notre temps, hein, dans notre quotidien, finalement, pour un petit peu chambouler tout ça. Elle est là, cette femme. Et elle a en elle une double souffrance, parce que sa fille est malade, sans doute assez gravement, pour qu'elle-même soit aussi porteuse d'une souffrance. C'est que les parents, lorsqu'ils ont des enfants qui sont malades, les parents ne sont pas bien. Tous ceux qui sont ici, qui ont fait cette expérience, le savent évidemment très bien. La simple inquiétude que nous avons pour nos enfants qui sont malades ou pour des amis, tout simplement aussi. On peut sortir du cadre familial, si vous voulez. Mais quand on a quelqu'un qu'on aime et qui est malade, eh bien, soi-même, il y a une sorte d'effet boomerang. Soi-même, ben, on n'est plus très bien, finalement. Et plus la maladie est grave, plus l'amitié ou l'amour sont importants, on est d'autant plus mal à l'aise, finalement, parce qu'on est en souci, parce qu'on attend de guérison, et ainsi de suite, et parce qu'on ne supporte pas de voir ceux qu'on aime dans la souffrance, finalement. Alors, cette femme, elle porte en elle une souffrance, on ne sait pas très bien laquelle, hein, moi, là j'extrapole un peu, j'essaie d'imaginer un petit peu, mais elle arrive comme cela, dans cette irruption, et elle va s'imposer. Elle va s'imposer dans un groupe d'hommes, ce qui est quand même, là aussi, pas tout à fait dans les coutumes du temps. Une femme qui viendrait de l'extérieur s'imposer comme cela dans un groupe d'hommes n'est pas très bien vue. Il faut dire les choses comme elles sont dans l'Antiquité. Hein. Et donc du coup, là, il y a déjà quelque chose qui se passe qui est intéressant. Elle vient, elle renverse les us et coutumes de son époque. Elle est là et puis elle vient vers Jésus, dont elle a entendu parler vaguement, et elle va s'humilier devant Jésus. Elle s'humilie devant Jésus, mais si elle s'humilie devant Jésus, elle va s'humilier devant les autres aussi. L'évangile de Matthieu, qui rapporte aussi ce passage, hein, parce que c'est dans Matthieu et dans Luc, hein, sont assez clairs. Elle se met au pied de Jésus, finalement, pour lui demander de dévier sa route, finalement, d'aller dans une autre direction, c'est-à-dire d'aller chez elle pour imposer les mains à sa fille, pour sauver sa fille, ou pour retirer le démon de sa fille, quelque chose comme ça. Il y a cette souffrance qui est extrêmement grande, qui lui donne une force pour pouvoir entrer. Vous me direz, mais c'est pas compliqué d'entrer dans une maison. Je veux dire, lorsqu'on a quelque chose à demander ou à partager, ou lorsqu'on a une souffrance, ben c'est pas si simple que ça. Je veux dire, d'expérience, je sais que, parce que je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois, dire que en allant à mes réunions de la Croix-Bleue, vous savez, où les gens qui ont des addictions extrêmement fortes, je veux dire, j'ai souvent vu des gens qui allaient jusqu'à la porte et puis qui n'arrivaient pas à rentrer. Et pousser la porte, c'est déjà un effort considérable. Ça nous semble simple, hein, je veux dire, mais c'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça, parce que derrière la porte, il y a quelque chose qui va se passer qu'on n'arrive pas à assumer, qu'on n'arrive pas à vivre, voyez. Alors ça, je crois que c'est déjà quelque chose d'important. Elle arrive à entrer, à s'humilier, à dire sa souffrance, finalement, aux gens qui sont là et à ce Jésus qu'elle n'a jamais vu, finalement, dont elle a seulement entendu parler. Elle demande. On a là, avec cette souffrance, quelque chose de l'amour de la mère pour sa fille. Ça, je crois que c'est essentiel aussi. Si elle fait cet effort, hein, de renverser les us et coutumes de cette manière, hein, d'aller vers ce Jésus qu'elle ne connaît pas, dont elle a entendu parler, c'est qu'elle a une relation à sa fille qui est une relation fondée sur un amour très très fort. Alors vous me direz, entre mère et fille, c'est normal, je veux dire, mais c'est encore mieux quand on le dit, quand on le constate et quand on le vit de cette manière. Alors elle est là et puis elle demande à Jésus qui refuse. Jésus dit d'abord les enfants. D'abord les enfants, c'est-à-dire les Juifs. Jésus est juif. Il est de son peuple, il aime certainement son peuple et il annonce le royaume à son peuple, aux Juifs. D'abord, la parole est pour eux. C'est ce qu'il dit. Il dit, on ne va pas partager cette parole avec vous parce que vous êtes impurs, parce que vous êtes païens. En gros, c'est ça qu'il a. Mais voilà, ce n'est pas si simple que ça. Cette femme qui a fait irruption, qui vient d'ailleurs, en fait, elle a ce qu'on appelle en théologie quelque chose comme l'extériorité prophétique. Vous me direz quel drôle de nom, mais c'est simplement pour dire qu'elle est porteuse d'un message, même si elle ne s'en rend pas compte, d'un message qui va renverser les manières d'être et de faire. Elle est porteuse d'un message qui va transformer les individus, qui va les interpeller. Et elle dit cette phrase, hein, ben les miettes qui tombent de la table des enfants, les petits chiens peuvent en manger. Elle vient de prendre dans la figure, en pleine figure, alors qu'elle est humiliée, alors qu'elle est porteuse d'une souffrance, elle vient de prendre cette injure épouvantable de chienne. C'est-à-dire, elle réagit et elle répond. Elle répond du tac au tac comme ça. Mais les miettes, une miette. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que cette réaction de cette femme qui affirme de cette manière la confiance qu'elle a en Jésus, hein, même un tout petit machin de toi, je veux dire, et toc, ce sera suffisant, je veux dire. Hein, et c'est vraiment quelqu'un qui est animé par une confiance en Jésus qui est extraordinaire. Et toute la confiance qu'elle a en Jésus et tout l'amour qui fait écho à l'amour qu'elle a pour sa fille, tout ça va se nouer finalement dans cette réflexion. Et Jésus dit, elle est guérie, ta fille est guérie. Je veux dire, va, ta foi est exemplaire, ta fille est guérie. Et c'est vrai que la fille est guérie. Je veux dire, oh, c'est pas de la magie. Il n'y a pas de magie dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de trucs et de machins, ne croyez pas, je ne crois pas qu'il n'y a pas de surnaturel. Jamais la Bible ne va contre l'ordre naturel du créé que Dieu a créé, évidemment. Mais la femme va trouver sa fille guérie parce qu'elle-même, cette femme est guérie et elle le signifie par son attitude. Le fait qu'elle ait pu dire sa souffrance, bien, ma fille est malade, hein, le simple fait qu'elle ait pu dire ça, le simple fait qu'elle se soit humiliée, qu'elle soit allée jusqu'au fond, hein, de l'humiliation, de l'humilité, et qu'elle ait pris en plus cette injure dans la figure, ça la fait réagir. Et automatiquement, elle va réagir. Et elle va réagir dans la foi. précisément. C'est cette parole de Jésus qui exprime peut-être la surprise de Jésus, peut-être la mauvaise humeur de Jésus. Après tout, pourquoi Jésus ne serait-il pas de mauvaise humeur? C'est l'incarnation, hein, ni plus ni moins, il n'y a pas de raison de dire, hein, qui est intéressante parce qu'il va y avoir cette femme qui va être repoussée dans ses derniers, tout derniers retranchements. Et là, elle réagit. Mais vous me direz, mais enfin, c'est une histoire de la Bible, ce truc. Mais non, ce n'est pas une histoire de la Bible. Je disais aux catéchumènes, là toujours, quand je suis avec les gens qui ont des addictions extrêmement fortes, qui sont au bord du gouffre et de la mort, encore un peu, et c'est l'hôpital et les morts de la rue, en gros, pour beaucoup. Eh bien, ces gens-là, quand ils s'arrêtent, alors qu'ils ne croient ni en Dieu ni au diable, tout ça, ça leur est complètement loin d'eux, ce n'est pas leur problème, ces gens-là disent qu'ils sont ressuscités, et ils utilisent ce mot. Sans se rendre compte de ce qu'ils disent. Quand même fantastique. Parce qu'ils sont dans leur dernier retranchement. Au-delà, c'est le néant. C'est la mort. Cette femme qui s'est humiliée, qui porte cette souffrance et qui prend cette injure publique, elle est dans son dernier retranchement. Elle réagit. Elle va réagir. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et elle est ressuscitée. Elle-même d'abord. Elle est guérie. Et du coup, elle étant guérie, Jésus lui dit, ta fille est guérie. Il ne lui dit pas, toi t'es guérie, c'est pas la peine. Mais il lui dit, ta fille est guérie. Vas-y, va trouver ta fille, elle est guérie. Mais tu vas aller trouver ta fille, non pas avec une souffrance que tu portes, avec un malheur que tu portes, mais tu vas trouver ta fille avec l'espérance que tu as dite. Et là, ça va passer avec ta fille, dans la communication. Tout va se jouer là. Effectivement, lorsque Matthieu, dans son évangile, dit que la fille est assise, alors que Marc ne le dit pas, mais enfin peu importe, mais Matthieu dit « la fille est assise sur le lit quand la mère arrive », la fille est déjà en cours de résurrection. Parce que lorsque sa mère rentre, elle rentre avec un visage de quelqu'un qui est éclairé par la foi, qui est éclairé par une espérance formidable qu'elle porte pour sa fille, finalement, et qu'elle transmet à sa fille automatiquement. La relation mortifère qu'il y avait entre la mère et la fille dans leur souffrance réciproque est cassée par la parole de Jésus, par l'envoi que Jésus donne à cette femme. Cette parole, hein, ce lien mortifère est détruit. Et donc, du coup, la vie peut à nouveau sortir, poindre, et s'affirmer, finalement. Oui, la fille est guérie, parce que la mère est d'abord guérie. Alors vous me direz, tout ça est très psychologique. Ben oui. Tout ça est très psychologique, si vous voulez. Ça m'est complètement égal. Je dis, mais c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est une parole qui est dite. Une parole de vie. La parole là, n'est pas un long discours. La parole est simplement cette rencontre improbable, finalement, extrêmement forte, finalement, avec cette injure qui est là, qui met tout le monde mal à l'aise, mais qui pourtant, c'est à partir, sans doute, de cette injure terrible que la femme va réagir. Et peut-être que Jésus l'a dite, cette injure, justement, pour faire réagir cette femme. Et lui faire surgir dans le malheur la confiance qu'il y a au fond d'elle-même. La vie s'exprime. Elle s'exprime auprès de cette femme qui est païenne, qui est phénicienne, comme elle va s'exprimer dans la péricope suivante avec ce sourd muet dans la Décapole. Alors la Décapole, c'est sur ces 10 villes qui sont au nord et à l'est du lac de Tibériade, c'est-à-dire qui sont en territoire païen. Précisément. Tiens, comme c'est curieux. On reste là dans le paganisme. Alors, ce sont des villes où il y a beaucoup de juifs, évidemment, mais ce sont des juifs qui sont mélangés, terriblement mélangés, à la population païenne du coin. Et là, ça aussi, ça m'intéresse, parce que précisément, dans ces deux passages, on va passer, c'est peut-être le deuxième enseignement là, du passage de la Syro-Phénicienne, on va passer du particulier, je dirais, à l'universel. On va passer d'un message qui est fait pour la Palestine, pour les Juifs, etc., on va passer à un message qui devient un message pour les Libanais, pour les Jordaniens et les Syriens d'aujourd'hui, c'est pour situer géographiquement parlant un petit peu tout le lieu géographique, c'est-à-dire pour le monde païen. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, la parole va être déracinée de son lieu d'origine pour véritablement atteindre tout le monde, quel qu'il soit païen, qu'il soit juif, ça lui est égal. L'appartenance n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont en souffrance, qui sont enfermés, qui sont incompris, qui sont malheureux, qui sont écrasés par le poids peut-être du destin, du malheur, que sais-je encore, comme ce sourd muet, quelqu'un qui est complètement isolé, qui ne peut plus communiquer ni par l'audition, ni par la parole, qui n'a jamais pu le faire d'ailleurs, puisqu'il parle très mal, ce que dit le texte. Dire donc qu'il doit être sourd depuis l'origine, depuis le début de sa vie. Donc là, il y a un malheur qui est là. Et là aussi, de voir Jésus qui fait des tours de passe-passe, qui est tellement incarné, qui est tellement proche des gens, qui est tellement proche des cultures de son temps, finalement, aussi. C'est intéressant de voir cette proximité qui s'exprime à travers ces rencontres, que ce soit donc cette injure à la femme syrophénicienne, ou que ce soit ces tours de passe-passe de Jésus, là, qui est un tour de guérisseur, ni plus ni moins, il faut voir les choses comme elles sont. Je veux dire, mais voilà, Jésus, il est proche du monde, il est là dans le monde, il est incarné, il rencontre ces gens dans leur catégorie socioculturelle, là où ils sont, comme ils sont, avec leur souffrance. Et c'est là que le message est universel. Parce que le message est déraciné, parce qu'il s'adresse aux Juifs et parce qu'il s'adresse aux païens d'époque, eh bien, il vient jusqu'à nous. Il vient jusqu'à nous pour nous toucher, finalement. Et c'est ça l'intérêt de ce genre de texte. C'est que lorsqu'on lit ce type de texte, on peut dire, mais moi, je ne suis pas juif. Moi, je ne suis pas syrophénicien. Je n'appartiens pas spécialement à la décapole. Je suis quelque part personne qui est là au XXIe siècle avec les questions, les problèmes, les espérances et les désespoirs du XXIe siècle. Mais la parole, elle est sortie de son cadre pour venir nous atteindre les uns et les autres là où nous sommes, véritablement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ce type de parole, ce type de témoignage, quelle que soit l'interprétation qu'on en fait, fonde finalement une communauté humaine et de l'ordre de la fraternité. Alors c'est vrai qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, qu'on soit agnostique, qu'on ait d'autres religions, des philosophies, que sais-je encore, Christ nous reçoit dans notre souffrance, entièrement. C'est ce que dit ce texte, ce que disent ces deux textes. Il nous reçoit dans notre souffrance et le royaume, c'est bien ce moment où il se passe quelque chose pour nous. Lorsqu'une parole, que cette parole soit un geste, soit une situation, soit une rencontre, soit un silence, peu importe, mais quand il y a quelque chose qui parle, vraiment, qui parle, qui a du sens, qui vient nous transformer, qui vient nous relancer dans la vie, qui vient nous dire, ben, vous êtes des ressuscités finalement, les uns et les autres. Parce que le message du royaume, c'est cela. Cette parole, elle est partagée pour que nous puissions en vivre, les uns les autres. Le royaume, finalement, à travers ces textes, eh bien, le royaume, on sait qu'il est accessible à tous, dans la confiance et dans l'espérance. Que ce soit la confiance de cette femme, l'espérance des compagnons, du sourd-muet ou que sais-je encore, peu importe. Mais le royaume est accessible à tous dans la confiance et dans l'espérance. Et il est effectif que si on veut que le fil tienne de l'espérance et de la confiance, il faut un troisième fil qui, comme le dira l'apôtre Paul un peu plus tard, eh bien, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses demeurent, mais la plus grande est l'amour, certes, parce que l'amour tient. L'amour de Dieu tient l'ensemble de l'espérance et de la confiance, et finalement de la vie, pour que nous puissions en vivre pleinement. Amen.